Paul Audy, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes philosophe, vous êtes un philosophe de la création, puis vous êtes également un philosophe créatif, parce que vous faites de toute lecture une création. Vous en aviez planqué une, si j'ose dire, une lecture de Molière dans un gros livre qui s'appelle Créer, et vous la republiez aujourd'hui sous le beau titre La riposte de Molière. C'est la lecture de la fameuse tirade du tabac, Don Juan, acte 1, scène 1, étrange scène d'exposition qui adresse directement au public une profession de foi dans la philosophie matérialiste. Écoutez.
Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde ? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière, reprenons un peu notre discours.
Si bien donc, et c'est comme ça que ça reprend, vous avez peut-être reconnu Jacques Charon. Alors, effectivement, ce dont on se rend compte, Paul Audy, c'est que ces deux hommes étaient en train de discuter, la levée du rideau interrompt leur conversation, et ça diffère donc une scène d'exposition, ça interrompt une discussion qui ne portait pas sur le tabac. Et qu'est-ce que c'est que ce valet qui s'en prend à Aristote et à toute la philosophie ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut que je précise tout de suite que lorsque ce valet prend la parole et qu'il s'avance sur le rebord de la scène pour regarder le public, c'est Molière qui joue le rôle de Sganarelle. Et donc c'est Molière lui-même qui s'adresse au public. Molière ne jouait pas le rôle de Don Juan, il jouait Sganarelle. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette sorte de préface à l'intérieur d'une pièce est tellement singulière, elle est tellement rare, puisque ce n'est pas une véritable scène d'exposition à proprement parler, puisque elle ne dit rien de ce qui va se passer ensuite. Elle est en quelque sorte collée à cette pièce. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de la comprendre non pas à partir de la pièce elle-même, ce qu'on a toujours fait, mais à chaque fois qu'on l'a fait, le problème, c'est que on ne peut pas expliquer certains mots de la tirade.
Et il y en a un qui vous a intéressé, c'est purger.
Alors, il y en a d'abord un premier, puisque je suis philosophe, qui m'a évidemment interpellé, c'est Aristote, c'est le mot de philosophe aussi. Et c'est la connexion entre passion et purger. Alors quand on a l'oreille philosophique et qu'on a un peu fréquenté la poétique d'Aristote, eh bien on s'aperçoit que ces mots, quand ils résonnent ensemble, doivent peut-être se référer à ce fameux traité. C'est une hypothèse de départ.
C'est-à-dire le traité de la poétique d'Aristote. Exactement. Où il disait que la catharsis tragique consistait par l'effroi et par la terreur à purger les âmes humaines des passions, Sylvain Guyot. Mais là, on peut pas purger, puisque le tabac est censé purger les cerveaux humains, mais il purge pas les cerveaux humains.
Il ne purge pas les passions. Alors pourquoi a-t-il voulu que le tabac purge les cerveaux humains et pas les passions ? Ben c'est précisément ce que l'enquête révèle, si vous voulez. C'est une enquête un peu minutieuse où j'ai essayé de montrer que ce qui se jouait là ne pouvait se comprendre que par l'actualité immédiate de Molière.
C'est-à-dire le Tartuffe.
C'est-à-dire le Tartuffe et l'interdiction du Tartuffe. Et plus que l'interdiction du Tartuffe elle-même, l'échec du premier placé que Molière adresse au roi pour que la pièce puisse être reprise, et le roi fait sourde oreille.
Oui.
Le roi impose la cessation de la pièce, et c'est face à ce vide, à ce silence, face à ce néant, et face aussi à toutes les attaques que Molière essuyait à ce moment-là, que Molière se doit d'inventer une forme de riposte pour essayer de dire sa vérité et essayer d'exprimer ce qu'il en est du théâtre.
Oui, parce que riposter, c'est pas répliquer. Riposter, c'est changer de terrain et c'est être là où on est fort et c'est aussi monter en généralité parce que ce qui est en jeu, si on lit bien Paul Audy, c'est la défense non seulement du Tartuffe, mais de la comédie hein, comme genre. Et puisque dans la préface de 1669, Molière affirme « On doit approuver la comédie du Tartuffe ou condamner généralement toutes les comédies ». Et donc, ce que la comédie purge dans les cerveaux humains, c'est, je vous cite, Paul Audy, « l'opinion erronée qui en vient à occuper l'entendement humain et aliéner ainsi la liberté de l'esprit ». Donc vous, Sylviane Guyot, j'y reviens, vous êtes une historienne de la tragédie, mais reconnaissez que, si on croit Paul Audy, ça donne aussi un rôle très important à, on dit la comédie, mais au fond le théâtre moderne profane.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'affaire du Tartuffe là, joue un rôle essentiel dans le déplacement que vous évoquiez à l'instant, puisque dans ce premier placé au roi, Molière ne définit plus la fonction de la comédie comme étant faire rire les honnêtes gens, mais comme corriger les vices du monde. Mmh. Donc, il y a une sorte à la fois, évidemment, d'entreprise tout à fait stratégique de légitimation de la comédie, mais aussi, plus largement, de repenser quelle est la fonction du théâtre, qui est une fonction avant tout sociale. Et Marine Roussillon, dans un article récent, d'ailleurs, allait même jusqu'à penser la dimension fondamentalement engagée du théâtre qui se joue à ce moment-là, au tournant de la mi-année 60, 1660.
Paul Audy. C'est une fonction tellement sociale, justement, que pour la première fois sur le théâtre français, il y a un auteur qui s'avance et qui parle en tant qu'auteur et non pas en tant que comédien. Endossant le costume du comédien, mais qui s'adresse pour la première fois au public. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, oui. Parce que l'échec, si vous voulez, de la protestation ou du plaidoyer que l'on adresse au roi, va se transformer en une forme de plaidoyer sans plaidoirie, qui s'adresse au public lui-même, pour que le public puisse trancher de la vérité du théâtre. Et ça, c'est tout Molière, si vous voulez. C'est-à-dire que Molière ne va plus s'adresser aux seuls puissants, il va s'adresser à ceux à qui il s'est toujours adressé, ce public, à la fois populaire et pas populaire, qui est dans la salle et qui va comprendre parfaitement ce dont il s'agit, puisqu'il est au fait de la persécution qu'il est en train de subir.
C'est ce que vous appelez, dans ce petit livre, la riposte de Molière, paru chez Verdier, ben, précisément sa riposte, sa capacité à, au fond, cacher un sujet d'actualité dans un autre, parce qu'on parlait effectivement au XVIIe siècle des vertus du tabac, et tout en sachant qu'il ne rentrera pas dans ses frais, d'où la dernière parole d'ailleurs, oui. Qui a fait couler autant d'encre que la première, tout le monde est content, il n'y a que moi seul de malheureux, mes gages, mais d'ailleurs, sur cette dernière réplique, Sylvaine Guyot, je signale un beau chapitre du dernier livre de Roger Chartier, paru l'année dernière, sous le titre édité et traduire « Mobilité et matérialité des textes », parce que cette chute, elle est conforme au dénouement de la pièce telle qu'elle fut présentée 15 fois au Théâtre du Palais-Royal en février-mars 1665, mais elle n'est plus dans les œuvres publiées par Armand de Béjart en 1682, 10 ans après la mort de Molière. Donc on retrouve notre conversation de tout à l'heure, le texte est instable.
Tout à fait.
J'aimerais dire qu'il est aussi instable pour des raisons internes. C'est que Tartuffe, nous en avons en fait 3 versions. Et chacune est différente de l'autre. Celle que nous connaissons est la dernière version. C'est un peu comme des poupées gigognes. La première à 3 actes, la deuxième à 4 et la troisième à 5 actes. Mais ce qui se joue justement dans l'addition de ces actes est absolument passionnant, puisque ce qui se joue là tient compte justement de l'histoire présente de Molière, et ce qui s'est passé justement d'abord en 1667, au moment de la deuxième version, et en 1669. Donc, on peut aussi, à travers la lecture de ces pièces, reconstituer les enjeux et les querelles de l'époque qui ont imposé à Molière de modifier sa pièce.
Je voudrais pour terminer vous faire entendre Ariane Mnouchkine en 1978, l'année de son Molière qui a marqué les esprits et qui justement nous parle de ce rapport entre comédien et tragédien.
Il était quand même, il faut bien dire, attiré tout le temps par le théâtre du beau monde. Et le théâtre du beau monde, c'est pas la farce, c'est la tragédie. Et il s'est toujours...
C'était lui le bourgeois gentil avant.
Mais ça, oui, ouais. Il a un côté comme ça, c'est-à-dire il se voyait en tragédien, il s'est toujours vu en tragédien, il a voulu écrire une tragédie, il s'est cassé la figure. Il n'est pas sûr d'ailleurs, hein. Il n'est pas certain qu'il était si mauvais tragédien que ça. Mais en tout cas, il ne savait pas jouer la tragédie comme on voulait la jouer à l'époque. Et il a eu une espèce d'entêtement dans l'échec à ce niveau-là, incroyable, malgré tous les conseils. Alors que, comme acteur comique, et ça, on le sait, je dirais même et surtout par ses ennemis, comme acteur comique, je pense, moi, que le seul qu'on puisse lui comparer, probablement, c'est Chaplin, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand rapport, hein, je veux dire. Et c'était un acteur comique prodigieux.
Alors, Ariane Mnouchkine compare Molière à Chaplin, mais vous, Thierry Sarment, vous le compariez à Louis de Funès.
Oui, Louis de Funès par rapport au général de Gaulle. Après, malgré tout, la question entre Louis XIV et Molière est un peu plus sérieuse, l'enjeu est un peu plus sérieux. Faut bien se représenter que Louis XIV, il n'entend pas que le discours de Molière, tel que nous l'avons par les préfaces, les placets. Il entend aussi le discours des dévots. Et les dévots sont loin d'être des imbéciles. En fait, ils ont bien vu que Molière, derrière tous les masques qu'il porte, et que nos invités ont réussi à lui arracher, eh bien, c'est un athée. Mmh. C'est un athée, et du coup, un athée qui n'avoue pas son athéisme. Mais les dévots et le clergé l'a très bien compris. Et donc, Louis XIV, il voit bien cette contradiction devant laquelle il est placé, entre un artiste qu'il apprécie, qu'il amuse, qui peut aussi ridiculiser ses ministres, ce qui lui est pas forcément désagréable, mais en même temps, quelqu'un qui remet en cause le fondement même de la monarchie. Parce que dire « je crois que 2 et 2 font 4 et 4 et 4 font 8 », c'est déjà mettre fin à la monarchie absolue.
Mais je voudrais revenir aussi, après ces fortes paroles, Sylvaine Guyot, sur ce que vient de dire Ariane Mnouchkine, enfin ce qu'elle vient de dire en 1978. Molière était-il vraiment un tragédien raté? C'est ce que disait la troupe concurrente, hein, celle de l'Hôtel de Bourgogne, mais en fait la compagnie théâtrale de Molière, l'illustre théâtre, puis les comédiens du roi, jouaient aussi beaucoup de tragédies de Corneille. Donc, on est aussi dans votre monde, le monde tragique.
Oui, tout à fait. Alors là, on est avec un autre mythe, comment dire, bio-professionnel autour de Molière, hein, de Molière, mauvais acteur tragique, qui en fait apparaît dans les sources, dans deux textes qui sont des textes de querelle. Hein. Mmh. C'est une description de ce Molière soufflant et gesticulant qui apparaît dans la réponse à l'impromptu de Versailles de Donodvisé et dans l'impromptu de l'hôtel de Condé, qui est aussi une réponse à l'impromptu de Versailles par Montfleury. Deux pièces de querelle, donc, qui, au fond, répondent en retournant la parodie ridicule que Molière avait donnée des acteurs de la troupe rivale. Et au moment où ils décrivent Molière dans le rôle de la mort de Pompée, je crois, ça fait plus d'un an et demi que Molière n'a pas joué ce rôle, donc on voit bien qu'on est là dans une sorte de circulation, finalement, de sorte de scénario polémique qui va, pour très longtemps, hein, figer cette image d'un Molière comique par défaut, en quelque sorte. Et on entend bien là-dedans, d'ailleurs, au fond, le manque de légitimité qui reste, oui, attaché à la pratique de la comédie.
Paul Audy, un dernier mot peut-être.
Je crois que c'est très juste. C'est ce manque de légitimité de la comédie que Molière a constamment combattu et qu'il a combattu en imposant une poétique nouvelle de la comédie. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il a essayé de donner une légitimation intellectuelle, sociale et politique à la comédie elle-même.